Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, faut-il renvoyer le monde animal à l'état sauvage ? 800 chats, 400 chiens, des rongeurs à foison, des poissons par milliers, des reptiles à profusion. Voilà ce que promettait le salon Animal Expo qui s'est déroulé il y a une dizaine de jours à Paris. L'équivalent pour les animaux de compagnie de ce qu'est le salon de l'agriculture pour les animaux d'élevage. Alors a priori, la comparaison s'arrête là. Les animaux d'élevage ont vocation à être exploités et mangés, le cas échéant. Et les animaux de compagnie sont là pour nous faire du bien, des antidépresseurs sur pattes, en quelque sorte. Ils ont néanmoins une histoire commune, ils ont été domestiqués. Autrement dit, si l'on se réfère à la définition proposée par le dictionnaire Larousse, ils ont été transformés, passant d'une espèce sauvage en espèce soumise à une exploitation par l'homme en vue de lui fournir des produits ou des services. Fin de la définition du Larousse. Alors c'est cette exploitation que remet en cause aujourd'hui le mouvement antispéciste. Il considère que la question de la liberté animale notamment doit se poser en tant que droit fondamental comme elle se pose à l'homme. Dès lors, faut-il renvoyer le monde animal à l'état sauvage ? C'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Damien Baldin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur agrégé d'histoire attaché à l'EHESS. Vous avez publié en 2014 aux éditions du Seuil « Histoire des animaux domestiques, 19e-20e siècle ». Pour discuter avec vous, Jean-François Bronstein, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe et historien des sciences. Professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous venez de publier chez Grasset « La philosophie devenue folle, le genre, l'animal, la mort ». Il n'y a pas que l'animal qui fait partie de vos interrogations, mais c'est un chapitre important de votre livre. Et puis notre troisième invitée, elle est en duplex des studios de Radio-Canada à Montréal. Il s'agit de Valérie Giroux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste et philosophe. Vous êtes la coordinatrice du Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Vous avez publié, c'était l'an dernier, aux éditions PUF, dans la collection Que sais-je, avec Renan Larue, Le véganisme. Et également aux éditions de L'Âge de l'Homme, Contre l'exploitation animale. Alors ce soir, on va parler, puisqu'on va se demander s'il faut renvoyer le monde animal à l'état sauvage, d'abord de la domestication. Damien Baldin, alors même si c'est l'objet de votre livre, mais en quelques mots pour commencer cette discussion, pour quelles raisons l'homme a-t-il éprouvé, à un moment donné, le besoin de domestiquer les animaux ? Est-ce que c'était pour des questions d'abord peut-être de survie et de développement ?
Alors, d'abord, une petite précision, c'est qu'il n'y a pas d'état domestique figé. Un animal n'est pas domestiqué une bonne fois pour toutes dans l'histoire et que chaque société exerce une pression domesticatoire sur les espèces animales qui l'entourent et développe chacune ce qu'on peut appeler un système domesticatoire, à savoir un système de gestes, de discours, de techniques de domestication des animaux qui les environnent. Et puis, la domestication, c'est aussi, vous l'avez dit en introduction avec la définition du Larousse, qui semble faire un synonyme entre domestication et exploitation. Mais la domestication, à l'origine, c'est le fait de faire vivre des animaux auprès des hommes, auprès de leur maison, de la domus, qui est l'étymologie de domestication, et de contrôler leur vie, de les nourrir, de les soigner, et notamment de contrôler leur reproduction. C'est vraiment ce qui fait ce qui est le critère absolu de la domestication, c'est qu'effectivement c'est le fait que les hommes vont contrôler la reproduction de ces animaux domestiques.
Alors, mais ils vont trouver quel intérêt ? Alors, en priorité ?
Les intérêts sont nombreux. Il y a évidemment un intérêt affectif qui est extrêmement important. On le voit aussi aujourd'hui avec le phénomène des animaux de compagnie. Il y a une utilité affective. Il y a bien sûr une utilité économique, matérielle. Ce sont les animaux dits de rente, à savoir des animaux que l'on domestique pour en tirer un revenu à partir des produits que sont ceux de la domestication.
Alors on verra dans un instant si vous considérez les uns et les autres que cette utilité est encore d'actualité de nos jours. Mais est-ce que vous diriez, Valérie Giroux, et la même question pour Jean-François Bronstein, que la domestication a été utile, voire peut-être nécessaire, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour les animaux ? Valérie Giroux.
Je me prononcerai pas sur la nécessité passée de la domestication, mais surtout, je pense que ce qu'il faut surtout, ce dont il faut prendre conscience aujourd'hui, c'est que la domestication à l'heure actuelle n'est plus nécessaire. Elle est une forme, elle est toujours de l'exploitation en réalité. Et il faut, en tout cas, c'est la vaste majorité des rapports qu'on entretient aujourd'hui avec les animaux domestiqués sont des rapports d'exploitation moralement inacceptables. Et c'est là-dessus, donc, c'est ce qu'il faut remettre en question. Il faut repenser nos rapports pour qu'ils soit respectueux. Et s'il peut continuer à y en avoir, ils doivent devenir justement de la coopération et non plus de l'exploitation.
Si vous dites, pardonnez-moi Valérie Giroux, que cette domestication n'est plus nécessaire, est-ce que ça veut dire, de votre point de vue, qu'elle a pu l'être par le passé?
Comme c'est pas mon champ de spécialité, je me prononcerai pas sur les raisons qui ont pu nous amener à domestiquer les animaux, sur la nécessité, encore une fois, historique.
Je vais vous poser la question différemment, si vous voulez. Comme vous êtes philosophe, même si effectivement la domestication c'est pas votre champ de recherche, mais est-ce qu'on pourrait dire alors que sans la domestication, nous ne serions peut-être pas là, par exemple aujourd'hui, dans cet état de développement de la société humaine, pour discuter de la condition animale? Est-ce que cette question-là vous convient davantage?
C'est possible. En effet, que ça a été très utile pour nous. C'est pas la question qui est en jeu en philosophie morale à l'heure actuelle. La question qu'on se pose, c'est qu'à partir du moment où ce n'est plus un mal nécessaire, ben, ça devient un mal tout court.
Jean-François Bronstein.
Bien, écoutez, moi, je vais essayer de sortir du domaine de spécialité parce que, effectivement, j'ai pas de connaissances précises là-dessus, mais toute l'histoire, toute la littérature, tous les arts nous montrent que les humains et les animaux ont une vie commune. Nous sommes liés à eux par toute une série de liens, quels qu'ils soient, que ce soit les animaux sauvages qui sont à l'origine des plus grandes œuvres de la littérature ou de la peinture, que ce soit les animaux domestiques qui, effectivement, vivent autour de nous, ou les animaux de compagnie. Ce qui me semble assez étonnant, c'est qu'effectivement, le débat sur l'animal apparaît aujourd'hui à un moment où effectivement les animaux ont quasiment disparu. Pour les habitants des villes, les seuls animaux que l'on connaisse, ce sont les animaux de compagnie et la viande que l'on mange ou que l'on ne mange plus. Ça me semble très, très réducteur d'une certaine manière parce que l'animal n'est désormais plus vu que comme étant possiblement souffrant. Et bon, mon livre qui parle effectivement d'autres questions parle beaucoup de Singer et de son idée que effectivement l'animal
est...
Peter Singer, le célèbre philosophe australien qui vit aux États-Unis, qui explique que l'homme et les animaux sont sentients, sont sensibles au sens de susceptibles de souffrir. Moi, il me semble que le point de départ devrait plutôt être la beauté et l'originalité et l'exceptionnalité des animaux. C'est-à-dire que il me semble que ce qui est fascinant chez les animaux, c'est que nous avons des liens avec eux. Nous en sommes, évidemment, d'une certaine manière, mais aussi, ils sont radicalement différents de nous. Et donc, de ce point de vue-là, pour répondre à la question que vous posiez, si on les laisse entre eux, si je puis dire, ça va finir dans un carnage de tous contre tous, parce que les animaux n'ont pas les règles des professeurs d'université civilisés que nous sommes. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, il faut à la fois prendre conscience de l'altérité des animaux et du lien que nous avons avec eux. Alors, comme ce lien se distend en ce moment, je crois que c'est ça, enfin, c'est mon hypothèse, c'est qu'effectivement, ce qui fait que la question animale devient une question essentielle et qu'on n'arrive plus très bien à comprendre quel est le rapport que l'on a avec eux. Et entendu, pour finir, que, évidemment, les conditions d'élevage actuelles des animaux sont abominable dans bien des cas.
Est-ce que vous dites, Valérie Giroux, qu'il faut essayer d'effacer finalement l'altérité qu'il peut y avoir entre l'homme et l'animal, ou bien est-ce qu'il faut repenser cette altérité, repenser la façon d'être en relation avec le monde animal qui ne soit pas à travers la domestication dont vous disiez il y a un instant que si ça avait pu être un mal nécessaire, aujourd'hui, ça n'est qu'un mal?
Oui, je pense que en fait la connaissance des animaux, les différences entre les espèces animales et entre les animaux, les individus à l'intérieur des mêmes espèces, c'est au contraire ce qui fonde les réflexions en éthique animale. C'est parce que la science nous a justement montré toutes les capacités insoupçonnées ou en tout cas qui n'étaient pas confirmées jusqu'à tout récemment, les capacités émotives, affectives, cognitives des animaux autres qu'humains, qui c'est à partir de ces nouvelles connaissances là, disons que la question morale de notre rapport à eux se pose dans toutes ces ambitions. Et je pense donc que la question maintenant, c'est effectivement, nous sommes des animaux, des mammifères, la question n'est pas de nier les différences entre les membres de chacune des espèces, mais de cibler peut-être que une certaine frange de la population, des membres de l'humanité, qui est capable de responsabilité morale et qui, elle, a des obligations morales à partir du moment où elle est capable de reconnaître que les autres animaux, les animaux qui sont sensibles, qui ont un point de vue subjectif sur le monde, qui peuvent être affectés par ce qui leur arrive, qui peuvent pâtir, qui se soucient donc de la manière dont on les traite, mais cette reconnaissance-là de la sensibilité animale génère des obligations parce que ces animaux-là ont des intérêts, pas seulement l'intérêt à ne pas souffrir, pas du tout. Non, ils ont aussi l'intérêt à vivre les bonnes choses que la vie leur réserve et donc à ne pas être tués prématurément. Ils ont intérêt à pouvoir exercer leur agentivité, essayer de satisfaire leurs préférences. Ils ont plein d'intérêts comme ça qu'on n'est plus aujourd'hui obligé d'enfreindre.
Alors, on ira justement dans un court instant sur la notion des droits peut-être fondamentaux que les animaux, en tout cas certaines espèces, pourraient peut-être revendiquer. Je ne sais pas si le terme convient tout à fait, mais pour rester sur la question de la responsabilité morale, Damien Baldin, donc vous qui avez écrit cette histoire des animaux domestiques au 19e et au 20e siècle, est-ce que c'est une question qui est totalement absente de la domestication à cette époque-là? Et est-ce qu'elle, finalement, elle n'apparaît pas de manière beaucoup plus forte aujourd'hui avec la progression de la connaissance, d'une meilleure connaissance, en tout cas scientifique, du monde animal et notamment du monde animal sensible?
Au contraire, c'est justement à partir notamment du XVIIIe siècle et encore plus au XIXe siècle que l'attention des hommes sur la souffrance animale peu à peu émerge dans les discours et surtout se structure politiquement. Et puis, évidemment, les paysans, les ouvriers, la population du XVIIIe et du XIXe siècle n'a pas attendu les progrès de l'éthologie ou les progrès de la science pour savoir au plus profond d'eux-mêmes que les animaux souffraient. Il n'y a pas d'un côté une société passée qui serait insensible et qui aurait été longtemps insensible à la souffrance des animaux et aujourd'hui une société éclairée qui prendrait pleinement conscience de leur sensibilité et de leur souffrance. Et c'est notamment au XIXe siècle que vont apparaître les premières sociétés de protection des animaux, la volonté de limiter la souffrance faite aux animaux, et aussi surtout les premières législations, 1822 au Royaume-Uni, 1850 en France avec la loi Gramont, et puis on a une gradation, une consolidation de la législation qui tend de plus en plus au cours du 19e et au cours du 20e siècle à punir les mauvais traitements et à faire même de la cruauté envers les animaux un véritable délit, notamment en France, passible du tribunal correctionnel. Et ce qui est par contre important à retenir, c'est que cette attention à la souffrance animale, elle tient d'abord historiquement à une peur de la violence des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation très forte entre le fait de se soucier de la souffrance des animaux et la peur de la violence populaire. Et notamment, les lois britanniques, mais aussi françaises, elles souhaitent protéger les animaux parce qu'elles souhaitent les protéger d'une populace, d'un peuple que l'on imagine volontiers violent envers les animaux. Et c'est une façon, en fait, de vouloir réguler la violence populaire qui est traversée par les révolutions, par la Révolution française et par toutes les peurs révolutionnaires. Et c'est ça qui structure au tout début du 19e siècle et pendant longtemps la protection des animaux. Et l'évolution que l'on constate aujourd'hui, elle apparaît dès la fin du 19e siècle où l'on commence à vouloir protéger les animaux et la violence des hommes contre les animaux, non pas pour protéger les hommes d'eux-mêmes, mais au contraire, simplement pour les animaux eux-mêmes, et c'est une protection qui est basée sur le fait que justement les animaux sont sensibles et que donc il faut les protéger pour eux-mêmes.
Jean-François Brunsen, la responsabilité morale de l'homme à l'égard des animaux, elle doit avoir, comment dire, quelle l'étendue, jusqu'où elle doit aller.
C'est la définition de la différence entre l'homme et l'animal. C'est que l'homme est responsable des animaux. C'est l'homme qui protège les animaux ou qui les maltraite d'une certaine manière quelquefois. Et il me semble que de ce point de vue-là, comme vous le disiez, c'est une vieille histoire. Il y a eu des lois, il ne faut pas dire que les lois traitent les animaux comme des cartes, comme d'une manière mécanique. Il y a toute une série de codes, code rural, code de l'environnement, code civil, code pénal, qui traitent de tout ça. Et moi, si j'insiste là-dessus, c'est pas du tout parce que je serait choqué qu'on se préoccupe des animaux. C'est que derrière le raisonnement de certains auteurs, comme Singer ou certains militants véganes, il y a l'idée que l'homme et l'animal, c'est pareil. Qu'un rat égale un cochon, égale un chien, égale un enfant, comme dit la présidente d'une association de protection animale. Le problème, c'est qu'on en arrive à des conséquences qui me choquent, effectivement, dans le cas de Singer, par exemple, où il dit qu'au fond, entre un enfant handicapé et un cochon en pleine santé, il vaudrait mieux faire des expériences sur l'enfant handicapé ou sur le comateux plutôt que sur le cochon. C'est-à-dire que la question, c'est pas juste la question de la responsabilité à l'égard des animaux, c'est la question de ce qu'on pourrait appeler la dignité ou l'exceptionnalisme humain. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas comme des animaux. La preuve, c'est que ce sont eux qui les détruisent ou qui peuvent les protéger. Il me semble qu'évidemment, si on dit que l'homme est un animal comme les autres, l'homme ne protégera pas les animaux. Il n'y a pas un animal qui protège un autre animal, sauf exception rarissime, mais c'est pas une protection au même sens. Et donc, il me semble que l'homme, en disant qu'il se retire du monde animal, il ne tient pas ses responsabilités.
J'imagine que Valérie Giroux ne va pas être tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire.
Ben, c'est-à-dire que le groupe des êtres humains qui sont moralement responsables, que l'on tient moralement responsables de leurs actes et qui peuvent effectivement protéger les autres animaux, c'est un sous-groupe, en fait, de l'humanité. Ça exclut les enfants très, très bas âge, ça exclut un paquet d'êtres humains qui ont pourtant la même dignité morale, la même valeur morale. Donc, le fondement de la valeur morale qu'on accorde aux individus ne repose pas ni sur une caractéristique purement biologique, comme la couleur de la peau, l'âge, le sexe ou l'appartenance d'espèce, ni sur des capacités cognitives ou morales sophistiquées, mais sur le simple fait de leur subjectivité, de leur conscience, de la possibilité pour eux d'être affectés par ce qui leur arrive. Et donc, je pense que le discours antispéciste qui revendique l'égalité morale, donc qui ne prétend pas qu'il y a une espèce d'égalité factuelle entre tous les animaux, ça c'est une mauvaise compréhension du discours antispéciste de le penser. On revendique l'égalité morale, c'est-à-dire qu'on reconnaît que même si les individus sont différents entre eux. Les femmes ont certaines différences par rapport aux hommes et ça ne signifie pas que les uns doivent être supérieurs, moralement supérieurs et ont moins de droits, ont plus de droits que les autres.
Valérie Giroux, voilà. Est-ce que cette égalité morale suppose que l'on s'oppose à toute forme de domestication, que ce soit l'élevage ou que ce soit les animaux de compagnie?
Disons que je pense que la domestication, de manière générale, s'est faite et se fait dans une très, très grande violence et est tout à fait injuste. Et je suis opposée à la domestication de nouveaux animaux maintenant. Je pense que ce serait une erreur de le faire. Maintenant, il existe des animaux qui ont déjà été domestiqués, qui ont été sélectionnés artificiellement de manière à être capables de se conformer à certaines normes sociales, qui sont dociles, je dirais, qui sont capables d'entretenir des rapports d'affection sans représenter un danger pour nous. Ces animaux-là n'ont pas un autre endroit où aller. Et il y a des auteurs qui, de manière très sérieuse, demandent aujourd'hui à ce qu'on reconnaisse qu'ils doivent être considérés parmi nous comme étant chez eux, donc faire partie de notre société, être considérés comme des concitoyens en quelque sorte.
Donc avoir une liberté de choix et de circulation, c'est ça, par exemple?
Ça peut impliquer ça, oui. En fait, ce qui compte, c'est de prendre au sérieux leurs intérêts individuels. Ça n'implique pas une égalité de traitement parce que chaque individu a des intérêts particuliers, mais ça implique une égalité morale, politique et juridique, oui.
Alors j'aimerais savoir ce qu'en pensent Jean-François Brunsen et Damien Baldin. Jean-François Brunsen.
Oui, alors je ferai tout. D'abord une remarque, cette communauté morale dont parle ma collègue, effectivement, si elle suppose la conscience, elle exclut beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients en état végétatif chronique, de handicapés profonds, qui n'ont pas la conscience. Et donc cela dépendrait simplement de notre bon vouloir. Je pense pas, et je pense que cette comparaison homme-animal, homme handicapé et animal en pleine santé, qui est pourrait se faire, a des conséquences, à mon avis, dramatiques que Singer et pas tous les militants animalistes poursuivent. De ce point de vue-là, il me semble vraiment qu'il faut essayer de protéger la diversité des animaux et la difficulté existe. C'est-à-dire que chez tous les auteurs qui ont traité de ces questions, le problème c'est que faire des espèces qui s'entre-dévorent, que faire effectivement du lion qui mange la gazelle, comment faire? Alors est-ce qu'il faut des forces d'interposition entre ces espèces animales? Est-ce qu'il faut les castrer? Est-ce qu'il faut les euthanasier, etc.? Il me semble qu'il faut se rendre compte que si ces espèces, je pense des animaux effectivement sauvages, peuvent survivre, c'est aujourd'hui quelquefois parce qu'il y a des parcs animaliers qui les préservent d'une certaine manière très artificielle. Et donc je pense que l'homme, pour l'instant, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des scandales dans les abattoirs et tout le monde a vu ces images abjectes, hein. Mais je pense que l'action humaine, c'est aussi une action qui permet de faire survivre et de préserver la diversité animale.
En même temps, Jean-François Bonsen, s'il y a des parcs animaliers aujourd'hui qui préservent les animaux, ils les préservent sans doute moins de leurs prédateurs, par exemple, je ne sais pas, les gazelles, des lions, que plutôt des prédateurs humains.
Ça dépend. Dans certains pays, effectivement, c'est l'état des sols qui fait que les animaux ne peuvent plus vivre parce qu'il y a eu effectivement des cultures qui ont massacré les sols, etc. Donc, je pense que c'est pas, les prédateurs humains existent, mais ce n'est pas l'essentiel aujourd'hui.
Damien Baldin, la domestication a permis de préserver la diversité des espèces, ou bien est-ce qu'elle n'a pas surtout contribué à diversifier, c'est-à-dire à créer des espèces qui n'auraient pas forcément vu le jour sans cette domestication, et auquel cas on peut se dire que bah, finalement si on l'abolit, on revient à une forme d'ordre naturel, c'est-à-dire avec des animaux monstres, enfin monstres au sens où ils auraient été créés par l'homme et qui auraient disparu.
Alors, tous les animaux créés par l'homme ne sont pas des monstres, mais il est évident bien sûr que la domestication a créé une richesse animale et une diversité animale, notamment dans le cadre des animaux d'élevage ou dans les cadres des animaux de compagnie, qui fait que aujourd'hui, par la domestication, il y a bien plus de races canines, par exemple, ou de races bovines. Mais j'aimerais revenir sur l'obligation morale. Parce que je pense qu'il y a aussi, en tout cas historiquement, il y a eu une nécessité, une obligation de domestication pour de simples raisons politiques, pour des raisons de santé publique. Il ne faut pas l'oublier. Si les hommes, évidemment, au Moyen-Âge, mais plus encore à partir de l'époque contemporaine, mettent en place une véritable domestication, notamment des chiens, par exemple, pour que les accidents dans la ville soient beaucoup moins nombreux, pour limiter la rage, par exemple, et toutes les maladies que transmettent les zoonoses, que transmettent les animaux aux humains. Tout cela, ce sont des politiques dites de domestication. Donc, très clairement, dans le cadre des chiens, l'instauration d'une véritable police des chiens, avec une réglementation que l'on connaît encore aujourd'hui, le fait que les chiens doivent être tenus en laisse, dûment immatriculés, que la divagation des chiens est interdite. C'est bien une pression domesticatoire sur les chiens qui s'est exercée d'un point de vue politique, mais avec un objectif qui me semble être d'une grande responsabilité morale et politique, qui est celle de la santé publique et de la bonne circulation des humains et des marchandises dans l'espace public. Donc, il faut aussi bien mesurer, et je pense que l'histoire ici nous le montre, que la domestication n'est pas uniquement une exploitation destinée à faire souffrir les hommes et à en obtenir un produit matériel et donc économique, et qu'elle s'insère dans des politiques beaucoup plus large, et qu'on ne peut pas comprendre la domestication des animaux sans comprendre les politiques publiques liées à l'éducation, liées à la circulation des biens et des marchandises, liées à la santé des humains. Et c'est un point aussi extrêmement important, me semble-t-il, d'un point de vue méthodologique, hein, je ne suis pas du tout un philosophe, mais de bien prendre conscience de cela.
Valérie Giroux, ce que vient de nous expliquer Damien Baldin, est-ce que ça ne remet pas quand même en partie en cause le projet antispéciste que d'en finir avec la domestication, dans la mesure où on voit bien que les conséquences peut-être justement de la fin des animaux domestiques sur le plan sanitaire, par exemple, et sécuritaire, pourraient être assez problématiques pour nous les humains?
Je pense qu'on a de bien meilleures raisons de penser que, au contraire, l'élevage est une catastrophe pour les êtres humains. On parlait tout à l'heure de l'être humain comme prédateur. On sait qu'en termes de biomasse, il y a beaucoup plus d'animaux maintenant domestiqués, exploités par l'être humain qu'il y a d'animaux sauvages. Alors, et je pense qu'il y a des rapports rapports importants qui montrent à quel point l'élevage a des conséquences désastreuses pour l'environnement. Avec la crise écologique qu'on connaît à l'heure actuelle, ce serait une véritable un véritable progrès, au contraire, de se débarrasser de la domestication. Puis je voudrais revenir juste sur peut-être une chose. Tout à l'heure, Monsieur Bronstein disait être choqué à l'idée qu'on puisse sous-estimer la valeur des êtres humains les plus vulnérables. Et je suis évidemment tout à fait d'accord avec ça. Et en fait, j'ai l'impression que l'antispéciste, c'est justement un mouvement qui n'est pas en opposition avec le mouvement des droits des personnes, de toutes les personnes humaines, mais au contraire, un mouvement qui en offre la justification la plus solide, qui se préoccupe du fait que c'est pas parce que des individus sont différents, ou qui ont des limites cognitives, par exemple, ou qui sont moins intelligents, qui ont moins le sens moral développé, par exemple, qu'ils ont moins de valeur morale individuelle. Donc, c'est un mouvement qui reconnaît que tout le monde a justement, tous les individus qui ont, comme ça, une conscience subjective, des intérêts personnels, méritent qu'on leur accorde le respect. Alors, je pense qu'il ne faut surtout pas opposer êtres humains et animaux à ce niveau-là, en tout cas.
C'est vrai que Jean-François Bronstein, dans la critique de l'antispécisme, on a l'impression qu'il faudrait forcément choisir, c'est-à-dire choisir son camp, et qu'on ne pourrait pas être attentif aux humains de la même manière qu'aux animaux. Pourquoi est-ce que c'est impossible? Si ça a pu être nécessaire, la domestication, à une époque, aujourd'hui, par exemple, on peut tout à fait vivre sans manger de viande. On n'est pas obligé de le faire, mais en tout cas, techniquement, disons, on saurait le faire, on peut vivre sans animaux de compagnie, ça ne nous fera pas dépérir.
Bon, je pense que moi, ce qui est gênant, c'est évidemment la comparaison entre l'animal et l'humain handicapé, pour faire vite. Et effectivement, ça, je pense que ça pervertit d'une certaine manière le sens de ce que c'est que l'humanité. C'est ce que disait un philosophe américain, Robert Nozick, qui dit, avec une telle comparaison, on a beaucoup plus de chances de maltraiter les humains que de mieux traiter les animaux. Ça me semble tout à fait évident, et c'est ça qui me gêne. Alors, s'agissant de la question de la domestication, moi, je pense que le problème, c'est que si on arrête la domestication, alors évidemment, on peut se passer de nos animaux de compagnie, c'est peut-être quelquefois pénible pour certains, mais c'est que le monde entier, notre monde va changer. Nos campagnes ont été forgées par ces animaux. Alors certes, maintenant, l'industrialisation de l'élevage est quelque chose qui pose problème, mais on pourrait très bien imaginer que nos campagnes reviennent habitées par les animaux, qu'on retrouve le sens effectivement des clôtures, de la géographie paysanne, des campagnes. Les campagnes ont été forgées par l'union des hommes et des animaux, par le travail commun des hommes et des animaux, et il me semble que si on arrête tout ça, bon, d'abord, la plupart des animaux domestiques, si on les relâche, vont être très vite l'objet de prédateurs, vont être détruits par des prédateurs ou par des maladies, etc. Et si on arrête effectivement l'élevage des vaches, des moutons, des cochons, pour des raisons que je peux comprendre, ça veut dire qu'il faut se préparer à ne plus avoir ni vaches, ni cochons, ni poulets, etc. Je trouve que c'est un appauvrissement de la diversité animale et humaine, parce que je pense qu'aussi ces animaux ne sont pas juste des êtres sensibles, ce sont des êtres beaux, ce sont des êtres qui ont leur poésie, que l'on croise quelquefois, avec qui on peut vivre, et moi je trouve que c'est cet aspect-là, c'est-à-dire les livres du prix Nobel de littérature Coetzee sont des livres sublimes, qui nous font comprendre effectivement à quel point nous sommes liés aux animaux, mais nous ne sommes pas non plus des animaux.
Voilà, vous évoquez notamment son roman Disgrâce, qui est un livre sublime. Valérie Giroux, si certaines espèces disparaissent du fait de la fin de la domestication, c'est tant pis, il faut en passer par là.
C'est étrange, je pense, de parler de diversité, de biodiversité. La plupart des animaux domestiqués aujourd'hui vivent captifs, tenus dans des espèces de facilités, d'usines, et ne participent, ne contribuent aucunement à la biodiversité de manière générale. Et avec ce type de raisonnement-là, on pourrait se dire, on devrait, par notre technologie et par la sélection artificielle, créer le plus possible d'espèces pour augmenter la diversité. Je pense que la diversité n'est pas en soi un objectif, et qu'encore une fois, au contraire, l'élevage à l'heure actuelle est un désastre écologique et nuit aux équilibres biotiques. Donc, je pense que ce ne serait pas nécessairement une perte qu'il n'existe plus d'animaux, qu'il n'existe plus les animaux qu'on a de toute façon créés de toutes pièces. Quant aux analogies entre les êtres humains et entre certains êtres humains marginalisés, vulnérables et les animaux, que font certains philosophes qui utilisent des expériences de pensée pour essayer de bien cibler cibler quels sont les paramètres, isoler des paramètres, disons, pour être sûr qu'on applique nos principes moraux de manière impartiale et rigoureuse, ben, il faut se rappeler que ces analogies-là sont faites par les êtres humains vulnérables eux-mêmes qui se plaignent avec raison souvent d'être traités comme des animaux. Il y a un rapprochement entre la déshumanisation, l'animalisation que dénoncent certains êtres humains, disons, et les revendications animalistes. Et il faut aussi, j'ajouterais, si vous me le permettez, que je pense qu'on a longtemps cru qu'en se solidarisant les êtres humains, en se définissant, en se pensant contre le reste du monde, contre le non-humain, on allait pouvoir peut-être combattre le racisme, le sexisme, en se solidarisant donc les uns les autres face à l'altérité. Mais on se rend compte par plusieurs études empiriques qu'au contraire, les gens qui finalement ont la plus grande différence entre les êtres humains d'une part et tous les autres animaux d'autre part, sont ceux qui sont les plus enclins à hiérarchiser les êtres humains entre eux en fonction de divers critères. Et ça, c'est ce que nous révèlent les études à l'heure actuelle et qu'il faut repenser, je pense, cette idée-là de la hiérarchisation en fonction de critères qui, au final, n'ont pas de pertinence morale.
Jean-François Brunsen.
Oui, s'agissant des handicapés, bon, je rappellerai juste que les parents d'enfants handicapés ont manifesté à plusieurs reprises contre Singer parce qu'ils n'ont pas compris exactement le caractère humain de cette comparaison. Il y a une philosophe que je cite dans le livre, Eva Kitaille, mère d'enfants handicapés, qui explique très clairement à Singer qu'on ne parle pas des handicapés comme ça, comme on parle de l'animal comme ça. Les handicapés ont leur propre mode de vie, leurs propres intérêts. Singer, je cite uniquement Singer, a écrit un livre qui s'appelle « Est-ce qu'il faut que les bébés vivent ?» Les bébés handicapés, il dit très clairement non.
On peut peut-être enfin, pas non plus résumer enfin, je, non voilà. plus là voilà le on mais, va dire la pensée oui. végane ou antispéciste.
Non non bien sûr
auteur,
je ne parle uniquement
si
de cet auteur qui est très fondamental voilà.
Damien Baldin.
Non simplement si quand même à un moment donné affronter des réalités sociales. La domestication ce n'est pas uniquement l'élevage industriel. Aujourd'hui ce sont des diversités territoriales, sociales, culturelles. Qui nécessite justement d'appréhender non pas un phénomène de l'animal, mais de multiples phénomènes de domestication, de multiples situations données qu'il est parfois difficile de conceptualiser dans son ensemble. Premier point, c'est ce que nous apprennent aussi les sciences sociales. Et puis, pour revenir aussi à ce que vous disiez sur cette famille, sur cette mère d'un enfant handicapé, aussi prendre conscience que tous nos discours sur domestiquer, c'est exploiter, c'est faire du mal aux animaux. Mais il faut aussi être conscient qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui aujourd'hui font un travail de domestication, qu'ils le font bien, avec attention. Ce ne sont pas tous, il y a des éleveurs responsables qui sont attachés à leurs animaux.
Et c'est à minima quand même un rapport de domination. C'est-à-dire, même si on peut considérer que dans certains cas, il n'y a pas d'exploitation, mais il y a forcément de domination dans la domestication, Damien Baldin. Et on peut être contre les rapports de domination, justement, d'une espèce envers une autre.
Alors, on peut être contre la domination des hommes, mais une fois encore, qu'est-ce que très concrètement cela signifierait d'abolir la domination, en plus au singulier, de l'homme au singulier, sur les animaux. Il y a un aspect même très, très terre à terre, et j'en suis désolé, mais après tout, c'est le rôle des historiens face à deux philosophes, que de dire, mais est-ce que nous sommes ici dans une discussion politique de société, ou est-ce que nous sommes dans une discussion très éthérée, car demain, je ne sais pas concrètement ce que signifie l'abolition de la domestication.
Alors j'ai une question à laquelle il est sans doute quasi impossible de répondre, mais je vais quand même vous la poser. Imaginons que les animaux aient le choix et face à cette disparition de la domestication. Est-ce que on est certain qu'ils préféreraient justement le fait de revenir donc à un état sauvage, puisque c'est la façon dont on posait la question ce soir, ou bien est-ce qu'on peut pas imaginer que certains préféreraient justement cette forme de coopération qu'est la domestication? Je sais pas qui veut commencer à y répondre. Allez, on va essayer du côté de Valérie Giroux.
Oui, si les animaux avaient le choix, la question est intéressante. Je pense qu'il faut, d'abord, les animaux, dans le cadre de la domestication, ce qu'on fait, c'est qu'on fait naître des animaux qui, autrement, n'existeraient pas. Et on le fait massivement. Alors, ces animaux-là, est-ce que ça fait du sens en philosophie? Ça pose d'énormes problèmes de se dire que, de se poser la question, est-ce que ces individus-là qui n'existent pas ont des intérêts? Ça paraît absurde. Un être qui n'a pas d'existence ne peut pas avoir d'intérêt. Alors, et ensuite, de se dire que ben, c'est peut-être le prix à payer de nous donner leur vie, de subir des traitements parfois douloureux, le prix à payer pour en venir à l'existence, et il y a quand même des bonnes choses dans l'existence, alors peut-être que c'est un bon compromis. Mais le problème avec ça, je pense, c'est que ça ne fonctionne pas, en tout cas dans les affaires humaines, on rejetterait un raisonnement comme celui-là. C'est pas parce que je mets au monde un enfant, par exemple, que ensuite ben, je peux le traiter pas aussi justement que les autres, pas comme les autres, le traiter différemment, ne pas respecter certains de ses intérêts fondamentaux en me disant, ben, après tout, il n'aurait même pas vécu si je ne l'avais pas mis au monde. Ça ne me donne pas le droit de le traiter injustement pour autant.
S'agissant des animaux, vous ne parlez pas seulement de leurs intérêts fondamentaux. Hein, Valérie Giraud, vous dites aussi qu'ils devraient pouvoir agir en fonction de leurs désirs et de leurs intentions.
En fait, c'est que je pense que d'agir en fonction de ses désirs et de ses intentions, c'est fondamental. En tout cas, c'est ce qu'on pense quand il s'agit des êtres humains. On s'oppose à l'asservissement, à l'assujettissement des différents êtres humains. Et c'est très difficile de trouver une raison qui nous permettrait de discriminer entre tous les êtres humains d'un côté, tous les autres animaux de l'autre, de cette manière-là, et d'accorder donc le droit à la liberté seulement aux êtres humains, à tous les êtres humains, mais de le refuser aux autres animaux. Je pense que les autres animaux, comme nous, ont de manière générale intérêt à ne pas être gardés captifs, à ne pas être traités comme des ressources à la disposition d'autres individus. Ils ont intérêt donc à la liberté telle qu'entendue, au moins chez les philosophes, au sens négatif du terme.
Jean-François Brunsen, pour quelles raisons les animaux ne devraient pas pouvoir agir en fonction de leurs désirs et de leurs intentions?
Moi, je ferai une réponse d'historien, d'une certaine manière. Ça dépend des animaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'animal en soi. Certains animaux domestiques vont partir, éventuellement, pourquoi pas. Moi, je vous disais tout à l'heure, mon chat n'est pas, quand je suis à la campagne, il ne s'en va pas, sans doute parce qu'il y trouve son intérêt. Il me semble que c'est le problème des animaux domestiques, c'est qu'ils ont, leur vie est liée à la nôtre, et donc ils ne peuvent pas quitter comme ça sur un simple coup de dé, un désir, ils vont pas partir parce que ils vivent avec nous. Alors on pourrait les abattre, c'est ce que proposent effectivement certains très rares abolitionnistes qui proposent effectivement d'en finir avec tous ces animaux, comme ça on arrête la domestication si on pense qu'elle est un esclavage.
Ce que disait tout à l'heure Valérie Giraud, c'était de dire de ne plus en domestiquer de nouveau, c'est-à-dire c'était pas forcément
sans aller jusque-là, mais effectivement moi je pense qu'on perdra effectivement ici la richesse du monde, on perdra la richesse des animaux, on perdra aussi ce qui nous constitue.
Alors selon les lois de la capillarité, puisque vous avez fait une réponse d'historien, vous Damien Baldin, vous allez peut-être nous faire une réponse de philosophe.
Non, d'abord je suis toujours heureux qu'un philosophe réponde en historien, et je répondrai donc aussi en historien, ou peut-être en tout cas en apprenti éthologue. Il est certain que si nous devions libérer les animaux, la première chose que nous devrions être obligés de faire, c'est de domestiquer. À savoir qu'il y aura une responsabilité, une fois encore notamment personnelle, tous les animaux qui vont rester attachés aux humains. Il y a ce qu'on appelle les animaux commensaux, par exemple. Les chiens sont des animaux qui ont besoin, qui vivent auprès des humains. Ils dépendent affectivement, matériellement aussi, des animaux. Donc vous avez tous ces animaux-là qui dépendent de nous et qui, donc, lorsque nous allons les libérer, eh bien, vont être à notre charge. Et s'ils sont à notre charge, nous aurons donc une obligation de domestication, au sens où nous serons, nous, humains, obligés d'ordonner la vie de ces animaux.
Alors on est quand même presque dans la philosophie, là. La fin de la domestication suppose la domestication. Là, c'est quand même...
C'est plus rhétorique que philosophie.
Un dernier mot, Valérie Giraud, pour conclure l'émission.
Je dirais qu'on est exactement en philosophie politique avec depuis l'apparition du livre de l'ouvrage Zoopolis de Sue Donaldson et Will Kimlicka, on envisage effectivement la possibilité de libérer, parce que quand on parle de libération animale, évidemment, on parle pas encore une fois de juste relâcher les animaux tout simplement, mais on parle d'une libération morale, politique et juridique. Et on peut imaginer après ça un vivre ensemble avec les animaux qui ont été domestiqués, un vivre ensemble qui les traite de manière digne, comme des égaux d'un point point de vue, encore une fois, moral, politique et juridique. Et ces auteurs-là nous offrent une théorie politique qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans les affaires humaines et ils nous montrent que ça s'applique de manière drôlement satisfaisante aux autres, aux animaux d'autres espèces, aux animaux des espèces domestiquées.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle vos ouvrages respectifs, Valérie Giroux, Le véganisme aux puces et contre l'exploitation animale. C'était aux éditions L'Âge de l'Homme, c'était l'an dernier. Jean-François Bronstein, La philosophie devenue folle, Le genre, l'animal, la mort, c'est chez Grasset, ça vient de sortir. Et puis Damien Baldin, Histoire des animaux domestiques au 19e et au 20e siècle, c'était au Seuil en 2014. Merci aux équipes de Radio-Canada qui assuraient le duplex depuis Montréal. Merci aux équipes du Grain à Moudre, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron avec la prise de son Anthony Thomasson. Arnaud Laporte, dans la dispute ce soir, ce sera de la BD.
Absolument. Vous vous en souvenez, depuis une heure, j'ai émerveillé par votre travail de mémoire, Hervé Gardette. Et vous vous souvenez de la question du grain à moudre de demain ?
L'opposition a-t-elle des raisons de se dire persécutée ? Suivez mon regard.
Vous me regardez moi, donc je ne sais pas comment je dois le prendre.
Vous êtes toujours dans l'opposition.
Merci beaucoup Hervé Gardette, vous écoutez France Culture. Il est 19h, le rappel des titres de l'actualité avec Laura Lavenne.